Bonjour les juristes talentueuses et talentueux. Ici Cynthia Anison-Lorber, votre hôte. Et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Jurinova consacré aux émotions et leur débordement. Aujourd'hui, nous parlerons de comment développer votre intelligence émotionnelle. Quelques précisions avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurinova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit, j'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jurinova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorber. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédiée à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous, une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode! Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'aborder à 3 reprises en séance les émotions, leur trop-plein et leur maîtrise. Souvent, vous me dites « j'aimerais mieux me maîtriser, j'aimerais arrêter de me sentir débordée par de la colère, par de la tristesse, par de l'énervement, par de l'agacement. Trop, c'est trop et j'ai trop d'émotions, j'ai trop envie de dire les choses ou j'ai trop de colère, ou j'ai trop d'énergie, ou je suis trop fatiguée, ou j'ai trop de travail, ou j'ai trop de sollicitations. » Voilà, il y a beaucoup de trop également. Et vous me dites également souvent, je suis trop sensible, j'aimerais être moins sensible, j'aimerais gérer cette sensibilité. Et j'ai peur de changer, j'ai peur de dire oui à ce poste également, j'ai peur de me montrer sur LinkedIn, j'en ai marre de me mettre en colère après mes enfants, j'en ai marre de crier sur mes enfants le soir en rentrant du travail, d'être agacée par leur comportement, leurs questions, leurs demandes. J'aimerais bien ne plus perdre patience, j'aimerais bien retrouver ma patience, mon intérêt, mon calme. Ma tranquillité, en fait, pour avoir une harmonie, pour être en paix à la maison, en fait. Je veux me maîtriser. Voilà. Souvent, c'est ce qui ressort dans ce que vous me dites en séance. C'est pourquoi j'avais envie de vous partager aujourd'hui le sujet des 4 émotions naturelles et le lien avec votre niveau d'énergie. Alors, je pense que certaines et certains d'entre vous, vous allez vous reconnaître à travers ce que je vais détailler ici, puisqu'on en a parlé cette semaine à plusieurs reprises. Nous discutons donc souvent de vos peurs, de vos colères, de vos baisses d'énergie, de vos démotivations parfois, de votre sensation de fatigue qui vous écrase, de vos tristesses aussi parfois. Et on aborde aussi parmi tous ces moments les moments de joie, les petites et les grandes réussites à la maison, au sport, au travail, etc. Par exemple, ceux qui sont en accompagnement mobilité, quand vous avez un super CV relooké, quand vous avez commencé à travailler votre profil LinkedIn, parfois créé de zéro, vous repartez de zéro, vous ne maîtrisez même pas l'outil, enfin le réseau social LinkedIn, vous êtes sur aucun réseau social. Donc, vous créez votre profil LinkedIn de A à Z. Si vous commencez à inviter vos proches, ils vous répondent oui, ils vous passent un petit coup de fil pour vous dire: Ah, ça y est, t'es sur LinkedIn, c'est sympa, voilà, il y a un échange qui se crée, vous trouvez un autre sujet de conversation avec eux, etc. Vous vous sentez accueilli, aidé aussi, soutenu dans vos démarches. Donc, c'est très, très agréable également pour vous et ça vous procure des petits moments de joie à ce moment-là. D'accord? Puis, quand vous avez vos premiers entretiens également, il y a l'aspect je prépare, je suis un petit peu. Je ne sais pas trop vers quoi je m'engage, donc voilà, je suis excitée tout en ayant aussi un petit peu peur de cet entretien. Donc voilà, donc on célèbre également ces petites joies qui font partie du chemin et de la vie. Et pour celles et ceux qui bénéficient de l'accompagnement coaching professionnel en 4 mois, nous abordons les émotions pendant le mois consacré à l'intelligence émotionnelle, hein, qui comprend donc les stratégies pour apprendre à les vivre et à profiter de ces émotions. Puisque les émotions sont le GPS de la vie, sont votre GPS de votre vie, d'accord? Donc c'est vraiment ça qui est intéressant à comprendre. Et c'est ce que je vais essayer de vous traduire à travers ce podcast aujourd'hui. Et pourtant, au quotidien, ces émotions nous compliquent souvent la vie, puisqu'elles nous semblent débordantes et envahissantes. Et dans notre société actuelle, ces émotions débordantes et envahissantes ne sont pas toujours très bien vécues par l'environnement dans lequel on évolue. Donc, je me souviens pour ma part de périodes de colère récurrentes lorsque j'étais à une période charnière de ma vie. J'étais dans un environnement professionnel qui ne me correspondait plus au niveau des valeurs, au niveau de la méthode de travail, surtout du travail en lui-même, en fait, des efforts à fournir, puisque on demandait de faire de moins en moins d'efforts. Donc, ça ne me correspondait plus au niveau de mes valeurs et surtout ma valeur forte travail. Et notamment le respect, la collaboration, l'apprentissage, le fait de toujours être en démarche pour apprendre, pour se développer, et puis donc cette valeur travail et fort, comme quoi il faut quand même maintenir un certain effort pour avoir des résultats et pour être reconnu aussi pour son travail. Voilà. Alors mes colères étaient souvent rentrées invisibles, hein, elles étaient en moi, en bon élève, puisque le syndrome de bon élève, je l'ai connu également. Mais je bouillais à l'intérieur, en fait, je perdais ma patience intérieurement et dans mes autres environnements, puisqu'on a tous différents domaines de vie, différents environnements, d'accord? Donc on a l'environnement professionnel, l'environnement personnel, l'environnement familial, l'environnement du couple, de l'intimité, c'est un autre environnement, un autre domaine, et l'environnement amical, associatif, etc. Donc on a environ 5 grands domaines de vie, d'accord? Et donc souvent, quand on ne vit pas une émotion dans un des domaines, on ne l'extériorise pas, elle se retrouve sur d'autres domaines de vie. Puis j'ai également eu, suite à ces colères, en fait, j'étais souvent vidée en énergie. Et à l'époque, je ne comprenais pas le lien, le pourquoi j'étais vidée en énergie, puisque j'avais le même rythme que les années d'avant. Alors, j'avais eu des enfants, oui, certes, mais tout était réglé, tout était organisé, donc c'était pas le point des enfants qui me plombait, en fait, puisque ça avait commencé avant d'avoir les enfants. Et le week-end, j'étais épuisée avec l'envie de ne rien faire. J'étais dépitée également par l'environnement dans lequel j'évoluais toute la semaine au boulot. Et je n'avais pas fait le lien entre mes colères, mes valeurs non respectées et l'environnement professionnel dans lequel j'évoluais, qui ne correspondait plus à mes valeurs. Puis j'ai eu des périodes de tristesse et d'abattement également quand je ne voyais plus d'opportunités en interne et j'allais devoir me résoudre à chercher un job ailleurs, à changer d'environnement professionnel. Et ça me faisait peur ce changement parce que j'avais mon CDI, je connaissais par cœur mon poste, je connaissais mes interlocuteurs, tous mes process étaient mis en œuvre puisque j'avais tout créé puisque c'était une création de service au départ. Et c'était un petit peu mon bébé aussi. J'étais attachée, j'étais loyale envers ce service et j'étais attachée affectivement à ce service également, à mon activité professionnelle. Pas forcément le service en lui-même, mais plutôt l'activité, le poste que j'avais créé en fait. Et donc j'avais peur, hein, de reprendre mes démarches, après plusieurs années, devoir refaire un CV, passer des entretiens. Créer mon premier profil LinkedIn, parce qu'à l'époque, j'ai dû créer mon premier profil LinkedIn. Je n'en avais pas, je n'étais pas sur LinkedIn. On parle de, c'était quoi, 2014, 2015, voilà. Donc, et j'avais cette fameuse boule au ventre tous les dimanches soirs, à l'idée d'y retourner le lendemain, cette peur envahissante, cette non-envie d'y aller le lendemain, cette perte de motivation et d'énergie, à l'idée d'aller travailler, alors que j'ai toujours adoré faire du droit. Donc cette absence de plaisir à l'idée de devoir faire le trajet, de dire bonjour et de me mettre à bosser mes dossiers, ça m'épuisait rien que d'y penser. Et ça ne me correspondait pas, ça ne me correspondait plus. Je m'éteignais à petit feu, en fait, je perdais mon énergie. Et donc c'est là où on voit le pouvoir cognitif, hein, c'est-à-dire le pouvoir de mes pensées sur mon état émotionnel, hein, parce que tout ça devient de mes pensées, de ce que je me disais à moi-même, et qui influait mon état émotionnel, donc ma baisse d'énergie. Alors, je vous propose de commencer par trois questions. Répondez-y tranquillement. Pour vous, gérer ses émotions, qu'est-ce que c'est? Est-ce réussir à les dompter, les contrôler, les refouler et ne plus les ressentir? Première question, je répète. Pour vous, gérer ses émotions, est-ce réussir à les dompter, les contrôler, les refouler et ne plus les ressentir? Okay? C'est longtemps ce que j'ai pensé, hein? Donc, ne vous inquiétez pas si c'est ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui. Deuxième question. Et le contraire de gérer ses émotions, pour vous, c'est quoi? Est-ce culpabiliser et se sentir honteux ou honteuse d'avoir craqué, explosé, ressenti, exprimé, ne pas avoir réussi à les contenir, ces fameuses émotions? OK? Donc, pour vous, deuxième question, je répète. Et le contraire de gérer ses émotions? Est-ce culpabiliser et se sentir honteuse et honteux d'avoir craqué, explosé, ressenti, exprimé, ne pas avoir réussi à les contenir? Okay. Troisième question, y a-t-il une autre voie pour gérer ses émotions ou pour profiter de ses émotions? Est-ce apprendre à les reconnaître et comprendre le message caché pour s'en servir? Okay. Je vous laisse avec ces trois questions. Et on entre dans le vif du sujet. Donc, lorsque nous réprimons nos émotions, elles prennent de plus en plus de place. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au domaine de vie. Elles prennent le pouvoir parce qu'elles sont présentes, il faut qu'elles s'expriment et elles ont un message à délivrer. Et donc, elles vont délivrer leur message d'une manière ou d'une autre, par le corps, dans d'autres domaines de vie, etc. Okay? Et elles exercent un contrôle négatif sur nous avec tout un tas de conséquences, donc sur la santé, sur notre environnement, sur nos différents domaines de vie, sur notre morale, sur notre niveau d'énergie. Okay? Dès lors que les émotions ne sont pas écoutées, il va y avoir un impact sur le niveau d'énergie très souvent. Connaître et savoir reconnaître ces émotions et leurs messages cachés sont de puissants alliés pour piloter notre vie, votre vie, ma vie. D'accord? Et non plus subir ces émotions. D'accord? Il s'agit de les reconnaître et de lire les messages cachés derrière ces émotions. À la naissance, je vous rappelle que le bébé dispose de quatre émotions de base. Hein. Elles sont innées et naturelles. Et c'est un cadeau de vie. Chacune de ces émotions naturelles, de ces quatre émotions naturelles, a son utilité et aide à piloter sa vie. D'accord? Donc on a premièrement la joie, deuxièmement la colère, troisièmement la tristesse et quatrièmement la peur. Je répète, premièrement la joie, deuxièmement la colère, troisièmement la tristesse, quatrièmement la peur. Okay. Je vais toutes vous les présenter pour que vous puissiez avoir une vision de qu'est-ce que cette émotion, à quel besoin elle répond et comment faire, quel est l'outil qui permet de détecter, de comprendre le message caché. D'accord? On commence par la joie, première émotion naturelle. La joie va du simple bien-être à l'euphorie la plus complète. Donc vous avez déjà connu ce type de sensation, je pense. Surtout, bah, observez vos enfants, par exemple. Les enfants ont souvent ce type d'attitude, d'accord? Quand on est adulte, on est souvent beaucoup plus calme et on a peut-être moins accès à cette euphorie, à ce côté foufou. Mais parfois, on a accès à du bien-être. Okay? La joie nous sert de moteur. La joie se caractérise par un mouvement d'ouverture qui se traduit par aller vers. Aller vers de nouvelles rencontres, aller vers un nouveau projet, aller vers un avenir plein d'espoir. Et la joie traduit un besoin de partager. On a besoin de partager quand on est en joie. La joie est considérée comme l'état naturel du bébé. Hein. Souvenez-vous de vos enfants ou des bébés tenus dans vos bras et leur expression de béatitude quand ils viennent de boire, d'avoir la tétée ou d'avoir pris leur biberon. Ils ont cette expression de béatitude, ce sourire qui apparaît naturellement. D'accord? Donc, la joie est la meilleure source de motivation et c'est une puissante énergie de croissance et de partage. D'accord? L'énergie liée à la joie, au sentiment, à l'émotion de joie est très puissante. Elle vous permet de croître, d'être en croissance et de vraiment de partager avec votre environnement. Elle permet de ce que je viens de dire, hein, de croître, d'apprendre, de se développer, de partager tout ce que l'on vit avec les autres, donc d'aider également les autres à croître. D'accord? Si vous réécoutez le podcast 14, quand je parle des quatre éléments pour votre résumé sur le profil LinkedIn, pour rédiger un résumé impactant et un résumé impactant et percutant sur votre profil LinkedIn, dans le quatrième élément, je vous parle du petit plus. Et je vous parle notamment du fait d'être communicant, communicatif, communicative, d'accord? Eh ben, vous pouvez vous servir de cet élément de joie. Ça peut être une de vos caractéristiques, ça peut être votre élément différenciateur. Okay. Je reviens à mes moutons, je ferme ma parenthèse. Donc, le message caché derrière la morosité, derrière la perte d'énergie, derrière le côté rabat-joie des adultes, souvent, les enfants peuvent parfois nous en faire part, derrière le côté défaitiste de l'adulte qui baisse les bras, que nous sommes devenus parfois hein, dans certains contextes, à certaines périodes de vie, à certaines périodes charnières de vie, il y a un besoin, le message caché derrière l'amorosité, la perte d'énergie, le côté rabat-joie, le côté défaitiste, est un besoin. D'accord? Quel est ce besoin? Il s'agit de réapprendre à habiter et écouter son corps avec bienveillance et amour. Il s'agit de quoi concrètement? Vous allez me dire concrètement, ça veut dire quoi de réapprendre à habiter et écouter son corps avec bienveillance et amour? Puisque nous sommes des personnes concrètes, il s'agit de respecter ses besoins et sa santé. Okay? Donc, il va falloir aller capter quels sont ses besoins et quels sont ses besoins au niveau de la santé également. Un outil formidable pour cela, c'est la respiration. Et c'est extrêmement simple. D'accord? La respiration pour sentir et vivre votre corps, pour se reconnecter à son corps, pour détendre les tensions qui sont présentes. Okay? Pourquoi respirer? Pour retrouver de la vitalité, pour retrouver de la gaieté dans son corps. Une fois qu'on va retrouver la vitalité et de la gaieté dans son corps, on va pouvoir le transmettre et le partager. On va remonter en énergie. Okay? Donc, au niveau de la respiration, je vous ai déjà partagé dans une newsletter il y a quelques mois le livre sur la cohérence cardiaque 365. D'accord? Donc, n'hésitez pas à lire ce livre sur la cohérence cardiaque. Il y a également le livre, enfin, un ou des livres d'ailleurs, sur le nerf vague. Comment prendre soin de son nerf vague à travers son corps. Donc, les ostéopathes notamment peuvent aider à cela. Hein. Pour pouvoir respirer beaucoup plus facilement, pour pouvoir reconnecter avec son corps, pour se remettre en énergie, donc reconnecter avec cette émotion de joie, d'accord, qui va vous permettre de remonter votre niveau d'énergie. Okay? Alors, ça peut paraître un petit peu perché parfois, hein, cette notion liée aux émotions, mais c'est extrêmement important et tout passe par le corps, d'accord? Voilà, donc je vous laisse sur la première émotion qui est la joie. Le principal outil pour se reconnecter à sa joie, c'est la respiration, avec notamment la cohérence cardiaque, comment activer son nerf vague, etc. Donc, il y a tout un tas d'autres techniques. La méditation de pleine conscience est extrêmement puissante également. D'accord? Le yoga, le pilates, etc. peuvent vous aider également parce que vous respirez à chaque fois. Okay? Donc, voyez ce qui peut vous convenir comme outil. Pour vous, moi je vous en cite quelques-uns, allez explorer ce qui peut vous aider pour remonter en énergie. Deuxième émotion naturelle, la colère. La colère va de l'agacement à la fureur dévastatrice. La colère nous sert d'accélérateur pour retrouver notre puissance personnelle. La colère traduit le besoin d'être respectée. Elle sert à poser vos limites, à vous faire respecter et à chasser les intrus. En fait, la colère permet le respect dans quatre domaines. Elle permet de se faire respecter sur votre territoire psychique et psychologique, premier domaine. Deuxième domaine, elle sert à vous faire respecter dans votre espace vital et votre temps. Troisième domaine, elle sert à faire respecter vos valeurs. Quatrième domaine, elle sert à vous faire respecter physiquement, dans votre intégrité physique. D'accord? Donc, je répète, la colère permet de vous respecter ou de vous faire respecter dans quatre domaines. Premièrement, premier domaine, elle sert à vous faire respecter dans votre territoire psychique et psychologique, l'aspect moral, si vous voulez. Okay? Deuxième domaine dans lequel la colère vous permet d'être respectée, il s'agit de votre espace vital et de votre temps. D'accord? La gestion de votre temps et la gestion de votre espace vital, votre espace intime. Troisième domaine dans lequel la colère vous permet de vous faire respecter, c'est vos valeurs, votre système de valeurs. D'accord? Et vous n'en dérogez pas en général. Elles vous animent, elles vous permettent d'avancer, elles vous permettent de respecter l'environnement et vous respectez vous surtout. Quatrième domaine dans lequel la colère vous permet de vous faire respecter, c'est votre intégrité physique. Vous, physiquement, vous faites respecter votre intégrité physique. Donc, les premières sensations d'agacement servent à nous signaler une menace. Okay. Et la colère, derrière tout cela, est garante de votre identité, de votre intégrité physique et morale et du respect de vous-même. Elle est indispensable pour défendre vos valeurs. C'est une émotion positive et constructive, d'accord? Dès lors qu'elle n'est pas dévastatrice. Ok, on est bien d'accord. La seule colère inadéquate est celle dirigée contre vous-même. En effet, comment peut-on être un intrus pour soi-même dans ces quatre domaines? Ok? Je répète, hein. La seule colère inadéquate est celle dirigée contre vous-même. En effet, comment peut-on être un intrus pour soi-même? Je vous laisse répondre à cette question. Et le message caché derrière la colère est un besoin insatisfait dans l'un des quatre domaines, que ce soit votre territoire psychique et psychologique, votre espace vital et votre temps, vos valeurs et vous physiquement. Il y a un besoin non satisfait dans un des domaines. Il s'agit donc d'identifier dans quel domaine vous n'êtes pas respecté. Identifier le déclencheur de la colère, les faits, la situation factuelle, d'accord, le contexte. Puis d'identifier les causes de votre colère, vos pensées, qu'est-ce que vous vous êtes dit, les petites voix, les jugements qui interviennent, qu'est-ce que vous vous dites dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui vous a heurté. Parce que vous allez avoir cette perception, mais la personne à côté de vous, ça ne va peut-être rien lui faire. Ça ne va pas lui sembler incohérent. Par exemple, quand moi, j'ai ressenti beaucoup de colère dans mon environnement professionnel, moi, c'était ma valeur travail, effort, valeur ajoutée, apprendre, se développer, croître, surtout pas stagner et rester sur ses acquis professionnels, en fait, toujours être en mouvement pour se développer, pour apprendre. En fait, moi, j'ai une soif d'apprendre. Et donc, quel était le domaine? C'était mon territoire psychique et psychologique. On me demandait de ralentir, d'en faire moins. Donc, je ne pouvais pas, ça ne me correspondait pas. Donc, on attaquait bien mon territoire psychique et psychologique à l'époque. Okay? Quel était le déclencheur de ma colère? Factuellement, on m'avait demandé lors d'une réunion d'en faire moins, de ralentir, de lever le pied parce que j'allais beaucoup trop vite. OK, sur un certain nombre de projets. D'accord, je rentrais d'un congé mat. Mon poste avait pris un petit peu de retard quand même pendant le congé mat, donc il y avait un certain nombre de projets à mettre en œuvre et je n'étais pas en accord avec ce qui était dit, d'accord? Donc, j'étais en désaccord. Et les causes de ma colère, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai réfléchi quand on m'a dit ça et je me suis dit, je ne suis pas d'accord. J'ai du retard, je rentre d'un congé mat, donc mon poste a pris du retard, certaines missions nécessitent d'avancer. Il faut apporter une valeur ajoutée parce qu'il y a eu telle et telle nouvelle directive européenne, donc il faut revoir telle et telle clause, tel et tel contrat, tel et tel process. C'est tout ce que je me suis dit dans ma tête. Et j'ai jugé comme quoi ma valeur ajoutée n'était plus reconnue. Voilà. Et qu'il ne voyait pas, surtout il n'arrivait pas à voir l'impact que ça allait avoir du fait de ralentir les projets et les dossiers à 2, 3, 4, 5 ans. D'accord ? Donc, les causes de ma colère étaient le fait d'avoir une divergence d'opinion dont je n'avais pas forcément fait part. Par la suite, j'en ai fait part, mais sur le moment, je n'en avais pas fait part. OK? Donc, comment faire pour après utiliser et montrer sa colère? Et c'est là où on y arrive. C'est ce que j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années. C'est d'utiliser la CNV. Qu'est-ce que la CNV? C'est un outil de communication non violente. OK? Il s'agit d'utiliser cette communication non violente pour exprimer sainement votre colère. OK? Donc là, je vous invite à lire les livres sur la communication non violente. Il y en a un certain nombre qui sont magnifiques. Je vous laisse en chercher de votre côté. Je vous en conseillerai certains dans des newsletters à venir, d'accord? Comme ça, vous aurez accès à une bibliothèque de livres qui pourront vous aider. Voilà. Alors, nous avons vu première émotion, la joie. Deuxième émotion, la colère. Troisième émotion naturelle, la tristesse. La tristesse va d'un léger spleen à l'énorme chagrin. La tristesse, c'est l'embrayage qui nous permet de changer de régime sans casser le moteur. Okay? Donc, on est en train de changer, on est sur une phase de changement, mais on va changer de régime, donc de vitesse, mais sans casser le moteur, sans se casser soi à l'intérieur. Okay? La tristesse se caractérise par un mouvement de retrait. On va aller en soi-même. La joie, c'est un mouvement d'aller vers, un mouvement d'ouverture. La tristesse nécessite d'aller en soi-même, okay? De se recueillir. La tristesse traduit un besoin d'être consolé. La tristesse sert à être disponible pour le nouveau, pour créer l'espace mental et l'espace émotionnel suffisant pour accueillir une nouveauté, un changement. C'est une transition d'une situation connue, préparant à une nouvelle situation. Okay? Donc elle permet de s'adapter à un changement. Je suis dans tel poste, je veux changer de poste en interne. Je suis dans tel poste, dans telle entreprise, je veux intégrer une nouvelle entreprise. J'ai telle mission, j'ai tel périmètre de mission au jour d'aujourd'hui, j'aimerais intégrer telle nouvelle mission dans mon périmètre d'activité. Je suis au jour d'aujourd'hui juriste, j'aimerais devenir responsable juridique. Je suis aujourd'hui responsable juridique, j'aimerais devenir directeur juridique. Je suis aujourd'hui avocat salarié dans un cabinet privé en province, j'aimerais devenir juriste d'entreprise dans un grand groupe français coté. Okay. Aujourd'hui, je travaille à 100% en télétravail à la maison. J'aimerais travailler maintenant à 100% dans un environnement où le présentiel est exigé. Une autre transition pour les personnes qui se posent la question de leur vocation notamment. Je suis au jour d'aujourd'hui juriste d'entreprise, responsable juridique ou directeur-directrice juridique depuis 15 ans et j'aimerais exercer en tant que sophrologue. Dans mon cabinet privé, j'aimerais créer mon activité et quitter ce monde de l'entreprise. Okay? Donc, j'aimerais me reconvertir. Je me dirige vers une reconversion. Okay? Donc, la tristesse permet de clore une période de vie, un chapitre de sa vie, une étape de sa vie, et de tourner la page pour ouvrir une nouvelle page. Elle est appropriée à chaque fois que nous avons un deuil à faire. Et là, je parle bien de deuil. Petit deuil, moyen deuil, grand deuil. D'accord? J'utilise l'image hein, du deuil, d'accord? Que ce soit le deuil d'une situation personnelle, d'une situation familiale ou d'une situation professionnelle. Okay? Vous quittez un environnement professionnel pour un autre environnement. Il y a un deuil à faire. C'est pour ça que dans l'accompagnement prise de poste, je préconise d'avoir minimum 15 jours entre les deux postes. Il faut clore les sujets, faire du tri au niveau psychique, d'accord? Fermer les dossiers au niveau psychique pour ouvrir les nouveaux dossiers. Au niveau psychique, toujours. D'accord, c'est important. Comment bien vivre sa tristesse? Tout simplement en se mettant en retrait du monde pour trier ses souvenirs et archiver ses souvenirs. Concrètement, il s'agit de quoi, vous allez me dire? Parce que ça veut dire quoi, trier vos souvenirs, archiver vos souvenirs? Et comme nous sommes des personnes concrètes, les juristes sont concrets, je vous donne des éléments concrets. Il s'agit donc de suivre les étapes du deuil, toujours l'image hein, du deuil, du docteur Elisabeth Kübler-Cross. Okay. Constitué de deux phases. Première phase, la phase descendante. Deuxième phase, la phase ascendante. Donc, c'est une courbe. D'accord? La phase du deuil est une courbe avec différentes étapes. Nous avons sept étapes en tout sur cette courbe du deuil, la phase descendante et la phase ascendante. Donc, sur la première phase descendante, qui se compose de quatre étapes successives, vous commencez par la perte ou le choc. Okay? Donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand on m'a demandé de travailler moins, de lever le pied. Donc, c'est une perte, pour moi, ça a été un choc, d'accord? Quand on perd quelqu'un ou quand on a une rupture amoureuse, on a une perte ou un choc, okay? Ensuite, on a le déni ou la sidération. On n'y croit pas. On se dit non, c'est pas possible, d'accord? Donc, on ne regarde pas la vérité en face, hein? On met tout sous le tapis et on continue à avancer. Ou alors, on est sidéré, on est paralysé, d'accord? Troisièmement, la colère. Commence à se dire non, mais mon intégrité est touchée. Donc la colère arrive à ce moment-là. Okay? Là, on défend son territoire psychique, psychologique. Okay? Ses valeurs également, on va les défendre. Quatrièmement, on est sur la désorientation ou la confusion. On ne sait plus quoi penser. On est désorienté. On ne sait plus quelle décision prendre. On ne sait plus vers quoi aller. On n'arrive plus à déceler les opportunités, le chemin à emprunter. On ne sait plus quelle action mettre en œuvre pour avancer. On est désorienté. On a un état confusionnel. On est dans un état mental confusionnel puisqu'on n'a pas d'espace mental. D'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de créer un espace mental. Oui, c'est la quatrième étape qui vous permet de créer cet espace mental. On est au tout début de la création de cet espace mental et de cet espace émotionnel. Il faut digérer la colère et on va remonter de l'autre côté. On commence la deuxième phase ascendante qui se compose de trois étapes. Là, il s'agit de marchander ou de se résigner. C'est-à-dire qu'on commence à se parler à soi-même, à marchander avec soi-même ou à se résigner. D'accord? Mais résigner dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on va peu à peu vers l'acceptation de la situation. D'accord? Donc, on discute avec soi. On met en place, on réanalyse tout ce qui s'est passé. On fait du tri dans les souvenirs, dans les éléments, etc., factuellement. Donc, on marchande, on se résigne. Sixième étape, on est en acceptation et on commence à mobiliser ses ressources. C'est-à-dire qu'on a marchandé, on s'est résigné, on a accepté. On est dans l'acceptation de la situation. OK. Moi, à l'époque, on m'a demandé d'en faire moins, de lever le pied, ça ne me correspond pas. Donc maintenant, il va falloir que j'accepte. Avant, j'ai eu peur. J'étais en colère et j'ai eu peur de devoir mettre en œuvre une recherche d'emploi. Maintenant, je suis prête, je vais lancer ma recherche d'emploi. Je vais refaire mon CV, je vais me créer un profil LinkedIn. Je vais passer des entretiens, je vais faire un bilan de compétences pour savoir où j'en suis, qu'est-ce que je veux réellement, quel est mon nouveau projet professionnel. Et je relance la machine, je relance mon projet de vie aussi. D'accord? Donc, j'accepte ce qui m'arrive, je mobilise mes ressources. Et septième étape, je suis dans le renouveau, la reconstruction. Je lance mon plan d'action. Donc, je rédige mon nouveau CV. Je prends un accompagnement bilan de compétences ou un accompagnement mobilité pour m'aider, pour être soutenue. Je construis mon profil LinkedIn. J'invite des personnes à entrer dans mon réseau. Je recontacte les membres de mon réseau. J'explique mon projet professionnel. Quel est mon projet professionnel? Je me mets à rechercher des éléments sur les entreprises que j'ai ciblées, sur les secteurs d'activité que j'ai ciblés. D'accord? Si je suis en prise de poste, eh bien, je m'intéresse à la structure de l'entreprise. Quels sont ses marchés? Quels sont ses produits, ses services? Qui est l'équipe de direction? Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant? De quel milieu ils viennent? Dans quels environnements ils ont grandi auparavant? Les membres de mon équipe, quelles sont leurs spécialités? Quelle mission ils ont? Etc., etc. Quel est le rythme de l'équipe? Quels sont les grands défis, les grands projets à venir à 6 mois, 1 an, 2 ans? Qu'est-ce que je peux apporter, moi? Okay. Quels sont mes besoins en formation? Sur quoi je dois grandir? Sur quoi je dois me développer? Est-ce que j'ai besoin d'une formation en externe ou est-ce que je peux le faire par moi-même? Est-ce que je peux commencer tout de suite à me former à telle et telle notion, à tel et tel outil, par exemple aussi pour les outils digitaux? D'accord. Et à la fin du processus de la tristesse, vous passez à l'action pour investir totalement la nouvelle situation. Donc, vous êtes passé d'une phase, vous avez transitionné vers une autre phase. C'est ce qu'on appelle la transition professionnelle. Et donc, ça passe souvent par cela. Okay? On est souvent dans cette phase avec les 7 étapes. Quatrième émotion naturelle, la peur. La peur va de l'inquiétude à la terreur panique. La peur, c'est notre pédale de frein qui nous invite à observer et à aborder les virages de notre vie avec prudence. Les périodes charnières, comme j'appelle ces virages de la vie. La peur se caractérise par le signal de fuite qui se traduit par aller loin d'eux. La peur traduit le besoin d'être protégé. Il existe 2 types de peur. La peur rationnelle qui fait progresser prudemment et la peur irrationnelle qui paralyse. Okay. On va commencer par la peur rationnelle et puis après je vous parle de la peur irrationnelle. La peur rationnelle sert à nous aider. La peur rationnelle sert à nous alerter d'une situation comportant un danger et à nous rendre prudents face à ce danger. Donc, un danger avéré. Donc, soit la situation présente un danger objectif, et la peur nous invite à déployer notre protection et nous mettre en sécurité. Il peut s'agir une peur... vous entendez du bruit, il y a une fenêtre qui est ouverte encore en bas de votre maison, par exemple, ou de votre appartement, il y a un danger, vous êtes susceptible d'y avoir un intrus. C'est un danger objectif. Soit la situation est nouvelle et la peur nous indique que nous sommes insuffisamment préparés pour affronter cette nouvelle situation et que nous devons mieux nous informer, mieux nous entraîner, mieux nous préparer. Dans ce cas-là, c'est par exemple, vous devez prendre la parole en public, vous devez présenter un projet à l'équipe et vous avez peur. OK. Dans ce cas-là, la peur vous indique que vous êtes insuffisamment préparé. Vous devez intensifier vos efforts pour vous informer, pour vous préparer, pour vous entraîner. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez diminuer l'intensité de votre peur. C'est ce qui apparaît lors de vos entretiens de recrutement. Souvent, on a peur lors d'un premier entretien de recrutement quand ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Pour certains qui n'en ont jamais fait, quand ils ont eu la chance d'être recrutés facilement par le réseau. Hein. Donc, j'accompagne également des personnes qui n'ont jamais eu à faire de CV, qui n'ont jamais passé d'entretien et qui, après 15-20 années de carrière, arrivent à une période charnière, comme je les appelle, où elles sont obligées de faire un CV et de chercher un job et donc de passer des entretiens. Et donc, dans ce cas-là, il y a une peur, forcément, une peur rationnelle qui apparaît. Donc, cette peur rationnelle, on la travaille par le fait de se préparer, de s'informer, de s'entraîner. Okay? Et je fais le lien avec le syndrome de l'imposteur également. Souvent, on se dit « je ne suis pas à la hauteur », etc. On rapporte cela au syndrome de l'imposteur. Tout à fait. Le syndrome de l'imposteur a deux aspects. Il a l'aspect syndrome de l'imposteur que l'on peut travailler, mais il a toujours un aspect résiduel à hauteur de 5% qui sera toujours présent puisque l'humain est appelé à se dépasser. Donc, je vais vous parler des 95 autres pourcentages du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que par la préparation, l'information, l'entraînement, on arrive à diminuer ce syndrome de l'imposteur pour arriver au syndrome de l'imposteur résiduel. D'accord? C'est-à-dire, une seconde, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est-à-dire que plus vous allez vous préparer, vous informer, vous entraîner, plus vous allez faire diminuer ce syndrome de l'imposteur qui est lié à la peur rationnelle. D'accord? Et vous aurez toujours un syndrome de l'imposteur résiduel et heureusement, pour ne pas être sûr de vous à 100%, pour toujours être dans cette démarche de croître, d'apprendre, de vous développer, de toujours vous renseigner, d'être curieux pour toujours progresser dans votre vie. D'accord? Donc, il est normal de ressentir de l'appréhension face à la nouveauté, c'est classique. La peur a le mérite de nous permettre de nous préparer afin d'affronter intelligemment la situation nouvelle qui se présente à nous. Le courage consiste à dominer sa peur, non pas à la nier. Donc, à distinguer de l'inconscience qui consiste à aller vers le danger sans protection, sans préparation, sans information, sans entraînement. Ce n'est pas la même chose, hein? D'accord, là on est dans l'inconscience. Avez-vous déjà vu un pompier combattre un incendie sans casque, sans veste, sans bottes de protection? Okay, il n'y irait pas le pompier, d'accord? Donc, à un moment donné, on a du courage, oui, mais on n'est pas inconscient. Okay? Donc, quand le danger est trop proche, la peur devient inutile. Okay? Dans ce cas-là, la peur devient inutile et le cerveau enclenche les mécanismes de survie, c'est-à-dire qu'il débranche le cerveau limbique des émotions et il enclenche les mécanismes de survie du cerveau reptilien et c'est fuite ou combat dans ce cas-là, d'accord? On passe sur un autre de nos cerveaux, ok? Donc cela s'appelle le sang-froid. Dans ce cas-là, on fait preuve de sang-froid, ok? Comment bien vivre votre peur rationnelle? Tout simplement en l'écoutant et en tenant compte. Donc je vous ai déjà donné les outils, hein. Concrètement, il s'agit de prendre toutes les mesures utiles pour vous protéger, vous renseigner, vous préparer, vous entraîner pour vous sentir rassuré au final et vous allez diminuer l'intensité de votre peur rationnelle. En pratique, replongez-vous dans la situation et approfondissez et complétez ce qui doit l'être jusqu'au moment où vous vous sentez confiante ou confiant. D'accord ? Travaillez, revoyez les éléments qui vous sont nécessaires pour votre projet que vous souhaitez mener ou cette situation nouvelle pour laquelle vous éprouvez de la peur. D'accord ? Une certaine angoisse. Et la peur irrationnelle, elle revisite les situations passées. Elle ne se base pas sur un danger objectif. Ok ? Qu'il n'y a pas de danger objectif réel, avéré, identifié. Cette peur est inutile et énergivore, en plus d'être absurde. Elle est extrêmement énergivore. Mais ce n'est pas suffisant de le savoir pour se libérer de cette peur. Ce serait bien trop simple, hein. Les peurs irrationnelles, elles portent bien leur nom. On n'arrive pas de manière rationnelle à y faire face. Donc, comment vous libérer d'une peur irrationnelle? Tout simplement en prenant votre courage à deux mains. Et en vous racontant l'histoire, le film d'horreur du début jusqu'à la fin. Le début, le scénario, l'ambiance, les événements, la fin. Et vous allez jusqu'au bout pour bien vérifier que c'est véridique, que c'est réel, que ça va se produire comme cela. Très concrètement, vous identifiez là où les peurs dans votre film d'horreur et vous les remplacez pour chacune des peurs par son équivalent en envie. D'accord? Donc, vous allez, au fur et à mesure de votre film d'horreur déroulé, vous allez le repasser pour remplacer vos éléments d'horreur, de peur, par vos envies. Okay? Donc, en effet, la peur et l'envie, ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est l'ombre et la lumière. OK? Donc là, c'est un petit peu plus technique peut-être, mais c'est vraiment important de le comprendre. Vous retracez votre film d'horreur et pour chaque élément d'horreur que vous mettez en avant, donc chaque peur que vous mettez en avant, chaque élément de la peur que vous ressentez, vous le remplacez par une envie. Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, j'ai peur de mourir. Donc, j'ai envie de vivre. C'est l'ombre et la lumière. J'ai peur de mourir, j'ai envie de vivre. J'ai peur d'être malade. Donc, j'ai très envie d'être en bonne santé. L'ombre, j'ai très peur d'être malade. L'envie, j'ai très envie d'être en bonne santé. C'est l'ombre et la lumière. L'ombre et l'envie. Okay? J'ai très peur d'être rejeté. C'est l'ombre. Donc, j'ai très envie d'être accepté. C'est la lumière. C'est l'envie. J'ai très envie d'être accepté. J'ai très envie de partager. En pratique, vous vous repassez le film en utilisant vos envies, vos lumières, et vous désamorcez peu à peu vos peurs. Et vous vous créez une base de confiance en vous et en l'avenir, d'accord? Vous désamorcez peu à peu le schéma que vous avez dans la tête de peur par rapport à une situation qui vous plonge dans une peur irrationnelle. Voilà. Et donc, je vous conseille une lecture pour aller plus loin sur ce sujet des émotions, qui est l'un de mes premiers livres sur ce sujet, qui est une référence pour moi. Il s'agit du livre de Michel Larivet, donc Michel Michel2LE, Larivet, Larivey, qui s'appelle La puissance des émotions. Je vous le conseille, hein, c'est un format pocket qui n'est pas très onéreux. Et vraiment, je vous le conseille. Vous allez aller beaucoup plus loin et vous allez également aborder toutes les autres émotions sous-jacentes, etc., les émotions primaires, secondaires. Donc, ça va vous donner tout un tas d'autres informations sur les émotions. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce sujet des émotions va vous plaire. À bientôt! Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et mille merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorber, sous Instagram, sous l'identifiant @ Jurinova Consulting, tout attaché, et sur YouTube, sous l'identifiant @ Jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jury Nova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvertes, testées, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permette de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.